Philippe Juvin, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, que vous êtes maire de La Garenne-Colombes et que vous êtes candidat aussi à l'investiture de la droite républicaine pour l'Élysée. Il n'y a plus de primaire, mais un congrès. Ce matin, est-ce que vous dites que vous vous maintenez ou que vous sortez?
Est-ce que vous poseriez cette question à Valérie Pécresse ou Michel Barnier?
Oui, mais eux, ils existent dans les sondages. Vous êtes inconnu et on ne sait pas qui vous êtes et votre projet.
Et vous voyez, il y a 20 ou 25% des gens qui vont voter. Il y a un moment où il faut se poser la question pourquoi? Moi, ce que je crois, c'est que les parcours. Je n'ai pas été ministre il y a 15 ans, vous avez raison, ça vous avez raison. Et c'est probablement aussi ça qui est
Non, mais
l'intéressant,
je
c'est
vous ai
d'avoir
posé
des
une
parcours
question
différents.
claire. Est-ce que vous vous
Oui,
maintenez?
mais bien entendu. Pourquoi
Mais
je ne me maintiendrai pas?
c'est-à-dire le congrès où chacun va
Bien
exposer ce
sûr,
qu'il est.
bien sûr.
Mais
Va proposer des solutions.
oui, mais c'est ce congrès, c'est une primaire avec un faux nez.
Ah non, mais je vais vous dire, si vous voulez me faire dire que j'aurais préféré une primaire ouverte, j'aurais préféré une primaire ouverte. Ouais.
Oui, mais là.
C'est une primaire qui est malheureusement fermée. C'est dommage, on sera bougri, mais on fait comme on peut.
Et comment la droite devrait-elle désigner son candidat unique?
Ah bah, de toute façon, que les choses soient claires, hein. Si on a deux candidats, on est cuit. Si on continue à se regarder le nombril comme on le fait aujourd'hui, on a perdu. Et si on n'est pas capable rapidement de mettre sur la table des idées et qu'on en est à la bataille d'égo, on a perdu.
Mais vous faites partie de la bataille des égos.
Mais moi, je veux justement en sortir, mettre des propositions sur la table. La droite a un message à faire passer. Jamais le pays a été sociologiquement aussi à droite et nous sommes en train de créer les conditions, de perdre. C'est quand même incroyable.
D'accord, mais est-ce que vous êtes prêt, vous qui défendez l'intérêt national, l'intérêt
Bien sûr,
général,
bien sûr.
à vous sacrifier, à sacrifier votre ego, vous, et à leur donner l'exemple
Mais bien
à ceux
entendu.
qui ne servent pas,
Moi,
sinon de l'agitation?
je serai toujours pour l'Union. Je serai toujours pour l'Union. Je serai toujours pour des propositions. Et je ne m'abîmerai pas dans des querelles
D'accord,
d'égo. Je ne m'abîmerai pas dans des
mais
querelles d'égo.
vous êtes en plein dedans.
Non, non, non,
Non,
non.
mais pas.
Être candidat, pardon. En démocratie, être candidat, ce n'est pas un
Très bien.
scandale. Donc moi, je suis
Et
candidat. Ensuite, j'irai à l'Union, forcément.
Xavier Bertrand, lors des régionales, avait promis, s'il se présentait devant les électeurs et qu'il réussissait, à se présenter aux élections présidentielles. Et maintenant, il demande le soutien de sa famille politique. Et il refuse un congrès piège. Est-ce que là, il ne faut pas lui donner raison ou lui donner tort?
Le Congrès, ça a deux intérêts. Un, désigner un candidat ou une candidate. Ça peut être Xavier Bertrand, ça peut être d'autres. Mais aussi mettre sur la table des idées. Et si on n'a pas ce débat entre candidats différents, on se prive du débat d'idées. Or, les Français veulent un débat d'idées.
Alors ce matin, est-ce que vous demandez à votre parti de réunir bientôt pour choisir plus vite et plus nettement votre candidat? Parce qu'attendre 2 mois, est-ce que ce n'est pas un suicide collectif?
Non, non, ça dépend ce qu'on fait de ces 2 mois. Si pendant ces 2 mois, on s'envoie des pics les uns les autres, oui, ça, c'est un suicide, vous avez raison. Si pendant ces 2 mois, au contraire, on met en avant des idées qui sont potentiellement des idées différentes, on débat, eh bien, c'est fructueux. Regardez les écologistes, tout le monde s'est moqué d'eux. Finalement, leur primaire a été très bénéfique. Il y a eu du vrai débat d'idées, moi, je veux ça.
Et en quoi, si vous me permettez, l'intervention auprès de patients dans les salles d'opération vous prépare à la fonction suprême, la présidence de la République?
Parce
En
que
quoi?
je vois, moi, depuis des années, ce qu'est la souffrance des gens. Je connais les préoccupations des Français. Je vois les effets de la paupérisation du pays. Je vois la disparition de l'hôpital public. Je vois qu'en France, aujourd'hui, on ne peut pas avoir facilement un médecin. Il y a eu un reportage juste avant nous, il y a 5 minutes, sur cette chaîne. On a vu que la France était pleine de déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre les déserts médicaux? Ça fait partie des
Mais
sujets.
alors pourquoi vous préférez la politique à la médecine?
Non, non,
Vous
je
seriez
préfère pas
peut-être
les
plus
deux.
utile pour la médecine.
D'une certaine manière, j'ai toujours dit que j'étais probablement meilleur maire parce que j'étais médecin et meilleur médecin parce que j'étais maire.
Oui.
On s'occupe des gens.
Donc vous êtes
Je m'occupe des
macroniste, vous
gens.
faites tout en même temps. Comment vous situez-vous devant la dynamique d'Éric Zemmour, vous?
Écoutez, moi, on est le 3 octobre. Le 3 octobre, c'est la date de promulgation et de signature par le maréchal Pétain de la loi sur l'exclusion des Juifs de la société française. 3 octobre, c'est aujourd'hui. Éric Zemmour a raconté que le maréchal Pétain avait défendu les Juifs. Ben, ça suffit à le disqualifier.
Les Juifs français, il dit.
Et alors, un homme, c'est un homme? C'est quoi cette histoire? Effectivement, j'entends cette petite musique qui dira, mais finalement, le maréchal Pétain avait protégé une partie de la population. Non, pardon, le maréchal Pétain, c'est celui qui a envoyé à Drancy des femmes et des enfants à la mort. C'est ça la
Donc,
réalité.
vous préférez le général de Gaulle à Pétain?
Mais évidemment, en fait,
On est en train de réécrire l'histoire.
mais je vais vous dire, pourquoi Zemmour monte-t-il? Parce que nous sommes absents. Nous sommes absents du débat. On n'arrête pas de se disputer, de se chamailler comme des sous-chefs de bureau. les dirigeants
de la droite.
Il y a même
des sous-chefs de bureau qui ne se disputent pas.
Sous-chefs de bureau qui, en l'occurrence, ils se disputent. Et ce n'est pas bon.
Est-ce que vous... Enfin, on voit bien que les Républicains, vos amis, là, s'agitent comme des boulins à vent contre lui, mais ça n'a pas d'autre effet que de le renforcer. Oui. Mais est-ce que vous comprenez que des Républicains, aujourd'hui, soient séduits par ce qu'incarne Éric Zemmour?
Non, mais s'il s'agit de dire que l'école, ça ne va pas, que la désindustrialisation est un fait, qu'il y a une paupérisation des services publics, je suis le premier à le dire. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce que derrière, vous avez des solutions? Moi, je n'ai pas de solution. Si la solution, ça consiste à dire à une partie des Français qui ne seront jamais Français parce qu'ils s'appellent Rachid ou Fatima, eh bien non, moi, je ne suis pas de cela.
Mais sur quel point il y a des convergences entre vous et, par exemple, Zemmour et ce qu'il représente?
Il n'y a aucune convergence de solution. Aucune convergence de solutions. Il y a un mur évident. La France, c'est quoi la France? C'est la volonté de vivre ensemble. Or, aujourd'hui, Zemmour explique que parce que vous êtes de culture musulmane, en fait, si vous êtes intégré, que vous voulez que vos enfants aient le meilleur, vous ne serez jamais totalement français. Ça, pardon, mais ce n'est pas possible.
Mais vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi il y a des gens de votre parti qui sont séduits par lui? Allez, il y a peut-être quelque chose.
La radicalité, ça séduit toujours. Évidemment, être radical, ça permet de ne pas répondre à la question de la solution. Mais c'est pour ça que ça séduit.
Entre la droite républicaine et l'extrême droite, est-ce qu'une jonction, même partielle, est possible?
Je ne le souhaite pas. Moi, je suis comme Jacques Chirac. Je pense qu'il y a deux camps. Il y a celui qui propose des solutions et qui croit que la République est universelle et celui qui pense qu'on peut la fractionner. En fait, d'une certaine manière, j'ai reproché à Emmanuel Macron durant ce quinquennat d'avoir fractionné les Français. Je reproche pareillement à Zemmour de le faire. La France n'admet pas le fractionnement de la
Mais,
nation.
Si vous me permettez, c'est une question qu'on peut poser à tous les Républicains. Oui. Comment il se fait que, après 10 ans, deux présidents de la République, François Hollande, Emmanuel Macron, vous n'avez ni programme, ni chef reconnu, ni leader reconnu?
Pour deux raisons. D'abord parce que...
Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 ans?
Justement parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas travaillé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pardon, les parcours sont toujours les mêmes. On vous resserre les mêmes 10, 15 ans plus tard. C'est pour ça que je vous dis, vous me demandez quelle est ma place. Ma place, justement, c'est d'apporter l'idée d'un parcours qui est différent.
D'accord. Mais encore une fois, je vais vous dire que vous partez de pas loin de zéro.
Bien entendu. Hein?
Comment
bien
vous pouvez entendu. De zéro passer à l'Élysée?
Eh bien, comment je fais?
En quelques mois.
Eh bien, justement, grâce à ces 2 mois de débat, c'est pour ça que je veux qu'il y ait des débats entre nous et qu'on arrête de se regarder le nombril et de parler de procédure. Vous comprenez bien que les Français voient que la situation est catastrophique, que la France tombe tous les jours un peu. Bien, que proposons-nous? Aujourd'hui, on ne propose rien. Je veux proposer des choses.
Ouais, c'est facile de dire, quand on est dans l'opposition, non. Ça tombe, etc. Nous serons les sauveurs de la France.
Non, mais pardon, Jean-Marie Le Pen... vous nous faites le ministère de la parole. Là.
Comment?
Vous nous refaites, monsieur Mitterrand, vous êtes le ministère de la parole. Souvenez-vous de la fameuse phrase de Giscard. Le vrai sujet, c'est a-t-on des propositions? Vous parliez de déserts médicaux.
Mais attendez, vous l'avez dit. Oui, vous dites, a-t-on un programme? Nous n'avons pas de programme.
Oui. Ah ben,
eh bien, même les pires critiques ne disent pas ce que vous dites. Vous n'avez rien. Regardez.
Les Républicains ont un programme. Pardon, ils ont un programme. Depuis 2-3 ans, nous avons travaillé. Nous avons eu des conventions. Ce n'est pas vrai.
Mais alors, qu'est-ce qui vous distingue les uns les autres, puisque vous avez fait un programme du parti?
Non, le parti a toujours, dans toutes les élections présidentielles, le parti a eu un programme. Et l'homme qui se présentait au présidentiel a eu son programme. Alors, il y a évidemment des conjonctions. Mais un homme se présente devant la nation.
Jean-Marie Le Pen vient de dire que peut-être qu'il perturbe le jeu politique dans son camp. Selon lui, son ami Éric occupe le terrain que Marine Le Pen a quitté. Et il ajoute, si Éric est le candidat du camp national, le mieux placé, je le soutiendrai. Est-ce que ça vous tente?
Non, mais attendez. Non, d'abord, ça ne me tente pas. Mais cette idée du camp national, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'on serait mauvais Français parce qu'on ne soutient pas Éric Zemmour? Moi, monsieur El Kabbach, je suis le seul des candidats à avoir porté l'uniforme de l'armée française en Afghanistan. J'ai pris des risques.
Alors,
l'idée du patriotisme, on ne me la fait pas. Je suis patriote. Le sujet n'est pas
alors,
là.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la manière de Jacques Chirac, vous dites... Non, définitivement, ou vous ne serez pas tenté à un moment donné, s'il continue à monter, d'aller tout doucement vous rallier vers lui.
Vous
trouvez des raisons d'aller se rallier.
Comment voulez-vous que je sois tenté par quelqu'un qui ne propose rien et quelqu'un qui vous explique encore une fois que le maréchal Pétain a défendu les Juifs? Enfin, on est devenu fou.
Oui, on l'a dit tout à l'heure.
Mais c'est vrai, il faut le redire.
Pendant les grandes heures, les heures graves de la pandémie, quand on... patient était en réanimation, qu'il souffrait, je vous regardais, vous alliez d'une télé à l'autre. Et je me demandais comment il fait. Est-ce qu'il ne serait pas mieux dans la salle d'opération ?
Mais vous savez, moi je fais tout, je suis à l'hôpital, vous venez me voir et je vous accueillerai. Je crois que quand on est médecin, on a aussi un rôle d'information. Moi ce que j'ai voulu, c'est faire en sorte d'expliquer aux Français ce qui se passait. J'ai essayé de ne pas trop me tromper. Quand je me suis trompé, je l'ai dit.
J'ai retenu, en lisant votre dossier, j'ai retenu deux choses.
Mon rôle, c'était aussi d'expliquer.
Le 6 mars, vous avez dit, le président de la République annonce que l'épidémie est inexorable. Et sur LCI, vous répondez presque le même soir, commençons par relativiser, pas de panique. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui ?
Ah oui, j'ai toujours dit pas de panique. Ouais. Je pense que la panique, c'est la pire des choses dans une crise.
D'accord, mais il ne s'agissait pas de panique, mais d'agir.
Bien sûr.
Mais le 23 mars, sur France Info, vous dites, il faut produire très massivement de la chloroquine utilisée à Marseille. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui ?
À l'époque, pardon, je vous l'explique, à l'époque, on ne savait pas si ça fonctionnait. Et j'ai dit, alors que nous n'avions rien, aucun masque, rien du tout, au moins ne soyons pas en rupture de stock de chloroquine.
Mais est-ce que vous le diriez aujourd'hui ?
Évidemment que non. On a vu quelques semaines plus tard que ça ne marchait pas. Mais à l'époque, pardon, c'est facile de refaire l'histoire. On ne savait pas.
Vous faites la critique pour beaucoup d'autres.
Non, mais on ne savait pas. On ne savait pas si ça marchait. Et je vous disais qu'à l'époque, il fallait en préparer au cas où. C'est ça que je disais. Je n'ai jamais dit que ça fonctionnait. Jamais.
Mais est-ce que quelquefois, vous avez dit, vous avez alerté avant, au début de la crise.
Bien sûr.
Vous avez alerté, vous avez anticipé. Vous avez dit attention au gouvernement ou à l'État ou aux citoyens. Il y a une épidémie qui arrive, une pandémie qui arrive.
Mais bien sûr, d'abord, je l'ai fait. Je me suis trompé aussi. Par exemple, en février, quand on voyait les Italiens sous l'eau, je me disais au fond, ça ne va jamais nous arriver. Ça, je me suis trompé, mais je l'ai reconnu. La question n'est pas de se tromper ou pas. La question, c'est de reconnaître quand on a fait une erreur.
Et donc vous dites que vous êtes beaucoup trompé.
Je me suis trompé, probablement moins que d'autres, mais je l'ai reconnu et c'est la grande différence.
Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui vous ne trompez pas aussi dans vos analyses ?
Je ne sais pas.
Dans 6 mois, vous direz là aussi, je me suis trompé.
Mais je ne sais pas, l'avenir le dira. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'épidémie, il y a des tas de choses qui ne sont pas réglées. On a des gens qui sont dans la nature, qui n'ont pas été traités, par exemple, de leur cancer, et qui sont dans la nature. Il faut aller les chercher. Ça, je ne crois pas me tromper.
Un mot. Jeudi, le président de la République a reçu à l'Élysée une vingtaine de jeunes dont les grands-parents se sont affrontés lors de la guerre d'Algérie. Et il leur a dit « Vous êtes une projection de la France, votre identité est une addition à la citoyenneté française, c'est une chance inouïe ». Est-ce que vous pensez que c'est une chance ?
Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Vous savez, on est noyé sous ses paroles. Moi, je me souviens qu'il avait dit que la colonisation de l'Algérie par la France avait été un crime.
Oui, mais après, il a corrigé, il a dit, il n'a pas dit pardon, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Un système politique des Algériens, du régime actuel, un système politique qui s'est construit sur cette rente, ça n'a pas plu à l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur. Là, vous dites qu'il avait raison de le dire
S'il veut dire que le régime algérien n'est pas un régime démocratique, oui, il a raison de le dire.
Ouais. Monsieur Juvin, ou docteur Juvin, ou monsieur le maire, Philippe Juvin, en juillet, est-ce que vous serez à l'Élysée ou à l'hôpital ?
Vous verrez, il faudra demander aux Français. En tout cas, si je suis à l'Élysée, j'apporterai des solutions qui aujourd'hui ne sont pas sur la table.
Ouais, c'est toujours ce qu'on dit.
C'est aussi ce qu'on veut faire.
Merci d'être venu et bon dimanche.
Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach. Bon dimanche à vous
et
également.
À 17h, je recevrai Agnès Buzyn, puis un autre thème qui passe pour beaucoup de gens comme un scandale. Mais on le verra tout à l'heure.